Bonjour à tous et bienvenue dans les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun et qui partage le témoignage de personnes extraordinaires. Et nous retrouvons pour notre sixième émission déjà Patrick.
Ouais, salut Mel, salut Issa.
Salut Issa, salut Patrick. Alors Patrick, nous poursuivons ensemble l'aventure où tu nous racontes ton odyssée à travers la maladie OH, à travers l'alcoolodépendance, parce que je rappelle à nos auditeurs que c'est bien une maladie et qu'il serait temps que certains regards changent, commencent à changer. Je voudrais rappeler les conséquences de la maladie qui sont l'exclusion, la honte qui augmente, la culpabilité qui s'installe, l'incapacité à stopper l'engrenage et que l'alcoolodépendance renferme dans une boucle qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, tu nous définis l'addiction comme l'enfer. Et je te cite, « L'enfer, c'est de constamment prendre conscience que rien n'est possible sans le produit et que sous produit, on ne peut plus rien faire. » Donc dans cette mission, moi je te propose, on va commencer à aborder ensemble le sujet du soin. Maintenant, c'est la sixième. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, j'aimerais que tu nous expliques quel a été ton parcours. On va commencer à le retracer ensemble si ça te va.
Ouais, bah écoute, on passe là quand même de la dernière émission où je vous racontais que j'étais dans cette souffrance et les méandres de l'alcool jusqu'au point quand même de croire que ma fille est dans la maison.
Oui.
Et qu'elle n'y est pas, que ça finit avec la gendarmerie qui va chez la mère de ma fille pour vérifier que l'enfant existe, qui est cet enfant, qui est auprès d'elle, dans quel foyer. Enfin, on est en train de parler de responsabilités importantes. Et on est en train de parler de situations qui sont dramatiques. On a des auditeurs aujourd'hui qui vivent, c'est encore leur quotidien, et qui dit quotidien dit répétition des journées. Qui dit répétition des journées pour le commun des mortels, c'est je dors la nuit, je vis le jour. Et là, on est en train de parler de mecs qui ont plus de temporalité et qui sont dans cette souffrance que tu nous as rappelée et sur laquelle je viens appuyer. Effectivement, je veux dire, un mec qui est dans les addictions, il est tout le temps en train de se brûler en enfer. Et effectivement, tu utilises un mot qui pour moi est extrêmement important dans l'addiction, c'est que c'est un engrenage. Et en fait, l'engrenage, c'est quelque chose qui se répète. Le comportement d'un piccolo, d'un alcoolique comme moi, hein, et il y en a qui vont se reconnaître, ben c'est que en fait, cet engrenage, il tourne, et on pourrait presque avoir cette métaphore. À chaque fois que l'engrenage fait un tour, tac, je remets une dose dans la machine pour être, ne pas être en crise, ne pas être en manque, ne pas être dans les souffrances qui m'ont amené à consommer, et au contraire d'être dans une forme d'apaisement. Et quand je dis apaisement, j'ai pas dit plaisir. Je parle d'apaisement psychologique, d'apaisement physique, donc de venir masquer les douleurs, de venir les éteindre et d'éteindre cette souffrance et d'arrêter de tronger. Et effectivement, paradoxalement, effectivement, je vais rentrer, donc on est à peu près en 2010 là, dans les années dont on est en train de parler.
C'est ça.
Je rentre dans un engrenage qui est sur la même systémie, sauf que je mets un pied dans le soin. Je mets un pied dans le soin, c'est une façon de parler au commun des mortels. C'est-à-dire que qui dit soin dit médecin, est en train de se soigner. Mais dans ma situation, et c'est ça que les auditeurs doivent entendre aujourd'hui, c'est que dans les premières étapes qui sont les miennes en termes de prise en charge médicale, je suis toujours dans un engrenage de souffrance, je mets les pieds dans les soins, mais je n'ai pas encore entendu que l'alcoolisme était une maladie. Or, et ça sera important au moment où ça arrivera dans ma vie, à partir du moment où moi je vais entendre que l'alcool est une maladie, à ce moment-là, je vais entreprendre, moi, je vais m'investir, moi, dans les soins. Mais au départ, je vais t'en parler aujourd'hui, j'imagine que tu as deux, trois questions.
Oui, j'en ai.
Je suis dans un engrenage qui est j'ai la moitié de l'engrenage, il est, on va dire, il est noir et il est en train de brûler, c'est mon enfer. Et puis j'ai quelques petites dents sur cet engrenage qui vont m'amener effectivement vers le soin.
Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, tu as déjà été hospitalisé une première fois dans les Yvelines quand tu remontes chez tes parents. Première prise en charge thérapeutique, mais pour dépression, angoisse, pas encore pour alcoolisme. Mais c'est pas pour autant que tu es dans le déni, toi. Tu sais que...
Ouais, alors là, tu mélanges deux, trois notions qui sont importantes de souligner pour l'auditoire, mais c'est très simple. Effectivement, donc première hospitalisation en 2008 près de chez mes parents, je refais pas l'histoire. Et il faut bien en fait que la secrétaire médicale enregistre sur ton dossier de prise en charge.
Tout à fait.
Pour la sécurité sociale, il va falloir enregistrer une pathologie.
Oui.
Pourquoi, Patrick, t'es dans l'établissement... dans les Yvelines en 2008, bah, tu y es et on enregistre ça comme dépression.
Ouais.
Moi, j'exprime quoi ? Des angoisses.
Tout à fait.
En fait, ce sont des mots génériques qui viennent mettre en avant que bah, le mec, il n'a plus de dynamique de vie, le mec, il est effondré et le mec, en plus de ça, il te raconte qu'il a la poitrine qui lui tape dans le corps et qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais crever ? Tu vois, et ça te tabasse. Et donc, en fait, effectivement, je suis hospitalisé pour ces raisons-là, dans l'enregistrement de cette maladie. La réalité, c'est que je suis un alcoolique et que quand moi, je n'ai pas le produit, je suis envahi par des angoisses, envahi par des réflexions de mon histoire perso. Et là, pour les mecs qui nous écoutent et pour les gens qui sont autour de ces gens-là, eh ben, y a un moment où il faut appeler un chat, quoi. Et ben, quand tu es alcoolique, et c'est la notion de déni dont tu vas parler, eh ben, en fait, inconsciemment, on rejette cet état de fait, c'est-à-dire que je suis alcoolique, je consomme de l'alcool, j'ai besoin de cet alcool pour agir, j'ai besoin de l'alcool pour œuvrer, j'ai besoin de l'alcool pour faire, et je n'arrive pas, je n'accepte pas, je suis en incapacité de dire je suis alcoolique parce que quand j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de ce produit pour pouvoir le faire. C'est pour ça que c'est l'enfer. Parce que si tu l'as pas, tu peux rien faire. Tu peux plus rien faire quand tu l'as pas et que t'es dépendant. C'est comme l'oxygène sous l'eau. C'est-à-dire que tu peux aller sous l'eau, tu vas y être. Mais si tu remontes pas, prendre un bol d'air, ben, tu peux rien faire. Mmh. Et ben, l'alcoolique, quand il a pas son alcool, il peut rien faire. Et en fait, je suis alcoolique, mais j'ai pas encore ce mot. On m'a pas encore dit t'es malade. On m'a dit bah ouais, il est en dépression, il est en angoisse, il n'arrive pas à gérer sa situation familiale, il n'arrive pas à gérer sa situation professionnelle. On est dans un monde où tu dois être bien en famille, tu dois être bien avec les copains, tu dois être bien au boulot, tu dois gagner ta vie, tu dois t'assumer, etc., etc. Mais en fait, les mecs là dont on est en train de parler, parce que moi je m'en suis sorti, mais les mecs en fait, ils n'y arrivent plus à ça.
Et oui.
Et où sont les proches ? Et donc là, tu en as parlé tout à l'heure, il y a la solitude qui s'est installée, les proches se sont écartés, il n'y a personne qui a envie d'avoir son alcoolique, l'alcoolique il fait chier quoi.
Il dérange.
Ouais, et moi je ne vais pas passer par quatre chemins, tu perds tout le monde, sauf une personne très précieuse, c'est ta mère, parce que la mère ne lâche jamais ses enfants, mais moi à ce moment-là, j'ai déjà, avec mon comportement, et pourtant je n'ai pas fait grand-chose de mal pour les proches qui sont les miens, et ben je perds les gens.
Ouais.
Donc, je suis hospitalisé parce que je vais pas bien. Je suis hospitalisé sous dépression et angoisse, effectivement. La réalité, c'est que je suis un piccolo, que je suis dans la chute aux enfers. J'y suis, j'ai le nez dedans. Ça va pas s'améliorer à ce moment-là de ma vie. Et effectivement, par contre, je mets les pieds dans une prise en charge que je connais pas, avec une équipe pluridisciplinaire qui va me demander comment je vais.
Ouais.
Qui va avoir un peu d'attention. Qui va ouvrir une porte pour moi.
D'accord.
Qui va avoir une oreille. Qui va... Et effectivement, même si là-haut, je suis loin de ma fille et loin de mes projets initiaux, ben, je suis dans le mal, quoi. Et je passe... tu vois, j'ai même un peu occulté cette hospitalisation. Et comme il y a quand même quelques éditeurs qui suivent un peu l'histoire, c'est dans cet hôpital, dans cet institut, que je vais faire... Cette assiette en terre cuite, avec marqué le prénom de ma fille et l'année de 2008 alors qu'elle est de 2007. Paradoxal quand je la vois cette assiette. Mais effectivement, c'est la première fois que je mets les pieds dans une institution pour me faire soigner.
C'est ça.
Pour l'alcoolisme, alors que la maladie n'a pas été nommée et que je sais pas que je suis alcoolique. J'en ai conscience. Donc mais, c'est pas ouais. du déni,
c'est
mais
ça.
Je fais pas le lien entre je suis alcoolique et donc je suis malade.
Ouais. Voilà. D'accord. Donc en 2010, du coup, quand tu redescends, tu disais dans les dernières émissions que tu faisais des allers-retours réguliers aux urgences de 7, toujours pour tes angoisses, toujours pour ton mal-être, toujours pour cette souffrance terrible. Et tu évoquais que tu allais carrément, que tu avais carrément un abonnement là-bas.
Ouais, ouais.
Alors, tu y vas très régulièrement.
C'est marrant, je me rappelle de cet échange qu'on a eu dans ton salon, là, sur ces deux fauteuils prévus à l'entrevue avec tes tasses de café. J'adore. Je vois que tu as une bonne mémoire. Je vais reprendre un petit peu l'histoire, effectivement, pour les auditeurs. En fait, ce qui est important d'entendre, bah, les gars, ceux qui sont concernés par le produit et les gens qui sont proches, c'est que j'ai pu constater, alors j'ai pas une vérité, hein, je partage mon expérience, mais la réalité, c'est que j'ai personne autour de moi matériellement, c'est-à-dire que je vis seul dans le sud, et j'ai pas d'oreille attentive à ma souffrance, je n'ai pas d'oreille qui accueille ma parole, j'ai personne qui est autour de moi. Et du coup, dans mes méandres et les 11 déménagements dont je vous ai parlé, à un moment, je pense, parce que j'ai été malin, j'ai réussi à acheter un appartement, effectivement, du côté de Ballaruc-les-Bains. Pour ceux qui écoutent, parce que c'est quand même dans la région, j'habitais sur l'avenue Pasteur, là-bas, c'est la dernière colonne de bâtiments un peu en hauteur, le long de plage, là. Et je me suis trouvé un petit studio en hauteur. Et en fait, il se trouve qu'au pied de cet immeuble, je vais la nommer Brigitte, parce que je vais éviter de nommer des noms. Mais il y a Brigitte, c'est un médecin généraliste. Et en fait, elle est au pied de mon immeuble. Et quand je suis dans le mal, je me dis, tiens, je peux aller voir un médecin quand même. Et elle m'oriente, c'est elle qui m'orientera après plusieurs rencontres, elle m'orientera vers l'addicto de 7. Et,
d'accord.
Et du coup, le lien il s'est fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré ce médecin généraliste qui a un rôle important aujourd'hui dans la prise en charge, quelle que soit la pathologie d'ailleurs. Et dans mon engrenage, et ben effectivement, dans ma temporalité, ce qui va rythmer ma vie, en fait, c'est la garde alternée avec ma fille. Et donc, tous les 15 jours, j'ai ma fille qui vient à la maison. Et donc, tous les 15 jours, quand je l'ai avec moi, je suis obligé de stopper les consommations. Mais comme je suis alcoolodépendant, ben, je ne peux pas les arrêter. Donc, je ne les arrête pas. Je les continue, je les amoindris et je passe 2-3 jours avec ma fille. Parce qu'en plus, à ce moment-là, l'ambiance... parentale, c'est-à-dire avec la mère de ma fille et la prise en charge de ma fille, prendre soin de ma fille, quoi. Il est simple, je prends très bien soin de ma fille en général, mais ça me demande un effort de fou parce que j'ai pas
appris. Faut que tu la reçoives correctement et tu te dis qu'il faut que tu la reçoives correctement.
Ouais, c'est un vrai effort.
Et c'est un gros effort.
Quand t'es papa en alternance tous les 15 jours et que t'es dans mon état, c'est une mission, quoi. Et j'ai bien réussi d'ailleurs dans cette mission quand même, faut le dire.
Malgré vraiment ton mal-être.
C'est ça. Et du coup, en fait, ma temporalité de vie, elle est que tous les 14 jours, là, 13 jours, pendant 2 jours, je vais avoir ma fille. Et donc, je suis dans un effort qui est énorme, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi matin, là. Et quand le lundi arrive, et ben là, en général, ça tape fort.
Ouais.
Et ça tape fort dans ta tête, ça tape fort dans ton corps. Donc, tu consommes fort. Et du coup, le lundi, le mardi, je me mets dans des états cliniques qui sont pitoyables. Mmh. Et cet état-là, en fait, c'est pas le médecin généraliste qui peut t'en sortir. Donc, c'est là où tu fais appel aux urgences.
C'est ça.
Donc, t'appelles nos amis les pompiers.
Ouais.
Et obligé de leur faire une petite dédicace s'il y en a qui nous écoutent, parce que c'est un des métiers que je respecte le plus au monde.
Oui.
Mais oui, les pompiers, effectivement, ils voient ma ganache régulièrement et dans un sale état. Et où est-ce qu'ils me déposent? Ils te déposent aux urgences de 7. Là, les mecs qui nous écoutent, ils savent, hein, t'arrives, t'es à 3 grammes, t'arrives dans la salle d'accueil, méchant ou pas méchant, bon bougre ou mauvais bougre.
Bah, t'es à 3 grammes quand même.
Ouais, puis c'est voilà. Toi la tâche, donc tu fais chier tout le monde. Donc très vite, tu vois les mecs de la sécu qui arrivent. Mm-hmm. Et puis après, si t'es intelligent et que t'es pas méchant, ça peut se passer bien, ça a été mon cas en général, mais c'est pas le cas de tout le monde, et donc tu fais chier les gens pendant qu'il y en a un qui a une hache dans la tête, qu'il a pris une balle ou qu'il est entre la vie et la mort.
Ou un coup dans l'œil.
Voilà, je te fais pas de photos, les urgences on les a tous vus, et puis toi t'arrives en fait, t'as juste une crise d'angoisse. Et ça c'est ça le malade d'alcool, c'est ça le mec qui arrive aux urgences, parce que c'est un piccolo. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai trop bu, ou rien, j'ai je suis triste. Les mecs aux urgences, et ça s'entend, ils ont autre chose à foutre, quoi. Sauf que le mec qui est alcoolique...
Pour toi, c'est énorme, en
mais
fait.
C'est ton quotidien c'est ton d'être quotidien. Dans le mal. Et il n'y a personne qui l'entend. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et ils t'orientent dans les urgences. Mais dans les urgences, des gens qui ne vont pas bien. Ouais. Donc, tu vas où? Tu vas en psychiatrie, quoi.
C'est ce que j'allais te demander, du coup. Dans et quel service ils t'emmènent? Parce que... C'est...
voilà. Alors... Bon, là, je caractérise le schéma, mais enfin, j'ai eu l'occasion de discuter quand même avec quelques dizaines, centaines de piccolos. Et ouais, on est cette catégorie de malades, cette vignette clinique, elle est... il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. On n'a pas un bras cassé, on n'est pas en train d'avoir les poumons, on n'est pas en crise cardiaque, on n'est pas en train de ne pas arriver à respirer, on n'est pas en train de se vider, de se déshydrater, on est juste
on
des
on n'est pas en urgence absolue.
Voilà. Mmh. On n'est pas en danger de mort en général. Et donc, on évoque qu'on a des soucis et qu'on a un mal-être et qu'on n'est pas bien en famille, qu'on n'est pas bien dans notre société, que... Alors, on est sans doute très, très compliqué à entendre, à écouter, en plus, pour ces urgentistes. Et donc, comme il y a un mal-être et qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre tête, on te met chez les docteurs des soucis de la tête. Ouais. Donc, on te met chez les psys. Voilà. Et donc, du coup, personnellement, effectivement, je me suis retrouvé, systématiquement le lundi ou le mardi, mais je me suis retrouvé, sur les 2 ans, les 2 ans, je ferais le tri chez moi.
Très régulièrement.
Ouais, j'ai dû faire une cinquantaine
d'hospitalisation
d'urgence à 7 et ça s'est quasiment toujours fini où en fait tu te barres parce que t'as envie de picoler et que tu sais que c'est ça qui va te mettre bien, parce que j'en profite pour dire, il n'y a pas de substitut à l'alcool.
Non, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Donc quand t'arrives et que t'es en manque, de toute façon, toi, tu le sais, à part picoler, il n'y a rien qui va te mettre bien. Alors on te sédate et à l'époque, moi, j'ai les benzos et je suis addict aux benzos, c'est-à-dire qu'en
exact,
fait
c'est vrai, tu nous l'avais dit déjà.
Ouais, je consomme du benzo au taquet et en fait, il se trouve que j'ai le docteur qui est en bas de chez moi, donc je vais la voir pour qu'elle me fasse mes ordos.
C'est pour ça que tu la consultes dans un premier temps, en fait.
Oui, et là je m'adresse au mec qui ils savent ce que c'est que d'être toujours à l'affût de son produit et d'avoir les stocks, c'est que tu vas au plus facile, au moins cher et au plus efficace. T'as un médecin en bas de chez toi, tu vas toquer, tu demandes l'ordo et si c'est un médecin, et il te fait ton ordo, tu vois. Oui. Par contre, si c'est un médecin qui respecte les protocoles, les benzos, c'est un médicament qui plaisante pas. On va pas faire le détail là benzos, mais benzodiazépine, pour ceux qui nous écoutent, vous tapez sur notre ami Google, là, il vous donnera la définition de ce que c'est que les benzos. Mais c'est surtout que le benzo, c'est une molécule ultra addictive et que je consomme, moi, des benzos depuis que j'ai 10 ans.
Ouais.
Là, on est en train de parler de 2010, donc j'ai 23 plus 10, j'ai 33 ans. À 33 ans, les benzos, ça fait déjà une quinzaine d'années que j'en bouffe, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc les benzos, pour moi, ça fait partie de mon oxygène. C'est l'air au-dessus de l'eau, quoi.
C'est ça.
Donc j'ai des benzos tout le temps et j'en consomme en même temps que l'alcool. Donc moi, mon corps est habitué. Alors les gens en général, ils disent oh là là, voilà le cocktail. Mais en fait non, mon corps, il a appris à vivre avec ça. Et comme tous les toxiques, tous les jours, tu augmentes un peu la dose, quoi.
Ouais, c'est
donc
ça.
Je vais voir le docteur en bas de chez moi et je lui demande d'être bon Saint-Maritain, quoi, de me donner mes benzos.
Donnez-moi.
Mais ouais, c'est ça.
Oui, puis de quoi qu'elle met un peu les angoisses, parce que les benzos, c'est ça, quoi.
Et là, en fait, tu dis juste, c'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que cette femme, à chaque fois que je suis allé pousser sa porte, à chaque fois, elle m'a accueilli.
Oui, je voulais savoir comment elle t'accueille, comment elle t'accueille, ce médecin.
Alors,
comment
elle me reçoit, il faudrait que moi je m'en rappelle.
Oui, c'est...
Alors, je devais, je vais mettre un petit peu d'autodérision, mais ça va forcément faire écho chez des gens qui nous écoutent ou des proches. Je dois sans doute pas sentir très bon, je dois sans doute pas avoir une très bonne haleine, je dois sans doute pas avoir des cheveux très soyeux. Voilà, et puis, on le verra par la suite, mais comme j'ai reçu une éducation correcte et que une bonne éducation même, et que je suis digne, j'ai de l'ego, j'ai ma dignité. En fait, je dois pas arriver. Je suis toujours dans le respect du médecin qui me reçoit. c'est quelque chose qui est ancré et ça m'a servi par la suite, on en parlera. Mais du coup, je vais voir le docteur en étant propre sur moi, mais alcoolique, quoi. Voilà. Donc là, c'est pour essayer de coller une image un peu aux gens qui nous écoutent et qui sont concernés par ça. C'est vraiment ça, c'est le mec qui est dans le mal et qui, ça se voit, il le porte sur lui, parce que j'avais une sale gueule hein, à l'époque, faut quand même le rappeler.
Oui.
Et ce médecin, à chaque fois que j'ai ouvert la porte, sans doute en lui rabattant que j'allais pas bien, que j'étais triste, que le monde entier m'en voulait, et toutes mes souffrances, mais la porte était ouverte, les oreilles étaient dispo, j'avais une parole ou deux, et j'avais une orientation à la fin de rendez-vous qui disait « Allez au centre d'addicto ». Aller au centre d'addicto.
Donc elle voyait ton alcoolisme et elle t'en parlait de cette façon-là. Elle l'a abordé en t'orientant vers un centre d'addicto, du coup, en te prescrivant tes benzos.
Ouais, alors là, il y a forcément le corps médical qui nous écoute et oui. De l'aide-soignante à l'infirmière, ouais. En passant par l'addictologue et le médecin généraliste ou une infirmière ou je ne sais qui. Je parle des blouses blanches en général. Le médecin qui est le mien, il n'est pas teubé, quoi, comme tous les gens qui sont dans le médical.
Elle le voit.
Elle le voit et elle est très probablement incompétente dans les limites de cette pathologie qui est une spécialité.
Oui.
Mais elle est compétente. Elle est médecin généraliste. Elle n'est pas teubé, quoi, pour faire simple. Et donc, elle doit me regarder en disant « Ah, l'alcoolique ». Après, les propos, la manière dont elle me regarde, la manière dont elle pose un diagnostic, et elle a bien fait, et les médecins généralistes doivent respecter ça.
Tout à fait.
Et ils ne posent pas un diagnostic comme ça. Quand tu es médecin généraliste, tu ne vas pas aller dire « Ah, bah, je pense que vous êtes dans une catégorie de pathologie cancéreuse de type ça ». Enfin, je veux dire, les médecins généralistes, ils restent à sa place. C'est ce qu'a fait ce médecin, mais nécessairement... Puisqu'elle est, médecin généraliste, il devait y avoir des incompétences. Des incompétences qui sont justifiées par son titre professionnel.
Tout à fait.
Du coup, bien sûr, elle m'a orienté sur un centre d'addicto. Et le centre d'addicto, et là, ça va me permettre de faire un petit peu d'humour quand même, parce que pour ceux qui ont Mappy ou je ne sais quelle application, oui. Vous faites Ballaruc-les-Bains, centre d'addicto de 7 à l'hôpital de 7, pour y aller à pied. Faut avoir des bons cuisseaux, faut être en bonne santé et voilà. Et
il faut un permis. Parce que tu n'as pas de permis.
Et non. Là, tu vois, c'est pareil. Combien il y a de mecs qui nous écoutent qui ont perdu leur permis parce que c'est des picolos.
Ouais.
On les compte pas, on les voit toutes ces émissions à la con là. On a tous des proches qui ont perdu leur permis parce qu'ils ont picolé. Et dans ceux qui ont perdu leur permis parce qu'ils ont picolé, il y a combien d'alcooliques?
Il y en a plein.
Voilà. Et donc quand t'as pu après ton permis, t'as deux solutions. J'ai utilisé les deux solutions. Tu conduis sans le permis ou de toute façon, tu n'as plus de permis, plus de voiture, pas de machin. Et puis, tu as compris qu'il ne fallait pas. Donc, tu es à scout, tu vois. Moi, j'avais mon 50. Voilà, super.
Tu nous avais déjà parlé de ton
50. Ouais, tu as 30 ans. Tu prends ton 50 et il faut que tu ailles à 7. Je ne sais pas si tu as déjà fait la route, mais enfin, si tu es face au vent, pour aller à 7, il faut 2 heures. Quoi, tu vois. Voilà. Donc, aller à 7, c'était chiant. Mais du coup, je suis allé au centre d'addicto de 7 pour revenir un peu à ce qui nous intéresse. Et...
vers un spécialiste alors. Puisque...
Ouais, et là j'ai vu, je vais me permettre de le dire à l'antenne, j'ai été suivi par un charlatan dans cette institution qui a fait tout sauf vraiment m'accompagner sérieusement et c'est ce qu'on va commencer à discuter je crois fin de cette rencontre là sur 10 épisodes, mais il y a un moment où il faut vraiment qu'on ait des compétences, qu'on ait des outils dans le corps médical qui nous permettent de prendre en charge les malades toxiques et surtout en ce qui concerne les addictions, l'alcool, les benzos, enfin les trucs communs quoi, cocaïne et autres opiacés, enfin voilà, on va pas faire la liste, THC, tabac, enfin je veux dire, tous ces toxiques, il serait temps vraiment, et ça c'est un des buts pour moi de cette émission et je remercie la Radio Escapade de me donner la parole d'ailleurs pour ça, mais clairement moi s'il y a des gens qui veulent discuter le bout de gras avec moi, ce qui m'intéresse c'est de venir aider l'OMS, hein,
on parle à
grande échelle, mais vraiment d'aller aider les soignants à prendre en charge les souffrants et vraiment d'apaiser leurs souffrances et venir régler les vrais problèmes.
Les comprendre, surtout comprendre.
Ouais, les comprendre. justement, il n'y a pas grand-chose à faire pour les comprendre. Il n'y a pas besoin de grosses compétences pour comprendre les gens, de savoir qu'ils souffrent. Mais juste, non, mettre en place des outils qui leur permettent de stopper ces souffrances, d'y mettre fin et d'arrêter, de faire comprendre à l'usager, à la personne qui est touchée par ça, de comprendre et de lui permettre d'arrêter le toxique.
D'accord. Voilà.
Ça, c'est vraiment ça, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est de trouver des clés. Enfin, moi, j'en ai des clés, c'est de les distribuer.
Voilà. D'accord. Dans cette, dans ce centre, avec ce spécialiste en addictologie, est-ce que tu vas toujours aux urgences de 7 en parallèle à ça? Est-ce que, comment ça se passe? Tu te concentres sur cette spécialité avec ce centre-là d'addicto ou parallèlement, tu continues à être mal et à aller aux urgences en parallèle à ça?
Là, ta question, elle est ultra pertinente et c'est dommage, les éditeurs sont pas avec nous. Je vais répondre à ça de manière la plus ludique à l'antenne en imaginant que les gens ne peuvent pas nous voir. Mais vraiment, la notion, c'est une temporalité. C'est-à-dire que je vais faire du binaire, mais on a le jour, on a la nuit. Le jour et la nuit, aujourd'hui, c'est ce qui rythme les personnes lambda, normales, qui bossent.
La journée.
Voilà. Le mec qui est dans le toxique, si on est d'accord juste pour dire, voilà, il est à la marge, il ne travaille pas, il a des relations sociales qui sont limitées, eh ben, la temporalité jour-nuit ne rythme plus sa vie. Lui, ce qui rythme sa vie, c'est le taux de produit qu'il a dans le sang.
Ouais.
Et la réalité, c'est que le toxicomane, l'alcoolique, il vit comme tout le monde. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, il vit. Alors, il ne vit pas au même rythme que les gens. Il ne vit pas nécessairement au même moment parce qu'il est en décalage. Mais il y a des explications pourquoi il est en décalage. Il est en décalage parce que quand il se regarde dans la glace, il a honte. Quand il se regarde dans la glace, il a peur. Quand il se regarde dans la glace, il n'a pas de place au milieu des autres.
Il est invisible.
Alors, il n'est pas encore invisible, mais il se cache. Et ce n'est pas pareil, parce qu'être invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas te voir.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Mmh. Alors que de se cacher, c'est... tu te rends invisible.
Oui, ouais.
Donc c'est pas la même,
voilà, et c'est très important.
Ouais, mais cette nuance elle est vraiment importante, elle est plus qu'importante, elle vient mettre vraiment
du sens
à ce que c'est que l'addiction. C'est que le mec qui est victime aujourd'hui d'addiction, victime, j'ai bien dit victime, le mec il a pas choisi d'être dans l'enfer et de brûler au quotidien.
Ouais.
Et ben quand ce mec-là ou cette femme, hein, parce qu'on ne vous oublie pas, mesdames, c'est les hommes comme les femmes, elles aussi, elles sont dans la merde. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, quand elle a un moment de lucidité et puis qu'elle a envie d'exister, elle a de la place nulle part. Mais il faut bien qu'elle respire, il faut bien qu'elle voie dehors, il faut bien qu'elle bouge, il faut bien qu'elle aille faire ses courses.
Ouais.
Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va quand il y a le moins de monde possible.
Ouais.
Du coup, on est en décalage.
Ouais, c'est la honte.
Et toutes les angoisses et toutes ces mauvaises pensées, elles arrivent quand? Elles arrivent au moment du coucher.
Oui, toujours.
Dans la temporalité du mec lambda. Mais la réalité, c'est que quand tu vas te coucher, toi, tu sais que ton lendemain, ça va être l'enfer. Donc, tu as envie d'aller t'y coucher? Non. Et donc, tu vas traîner, tu vas regarder. Ah ouais, petite dédicace au ministère de je sais pas qui là qui s'occupe de la télé, mais en France faut arrêter quoi, je vois, non mais l'audiovisuel en France faut arrêter. Moi j'allume ma télé TNT gratos, je veux dire, quand t'as pas de thune, t'as pas le câble, et t'as des films, ils ont ils ont même ma grand-mère elle les a regardés quoi. Non, faut être sérieux. Donc du coup t'es devant ta télé qui est pourrie, alors maintenant il y a les réseaux sociaux etc, mais du coup tu te plonges là-dedans, tu dors pas, et du coup il y a un moment quand même si tu dors plus beaucoup et que t'es dans des comas éthyliques, il y a un moment où tu t'allonges, et ben en fait tu t'allonges quand t'as pas envie de voir les gens, c'est-à-dire quand la fourmilière est en activité. Ouais. Et en fait tu te décales encore plus, et cet engrenage c'est l'engrenage qui fait que t'exclus de la société. Et à un moment, t'es tellement exclu du système que tu deviens invisible.
Ouais.
Voilà. Et de toute façon, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui te tend la main. Et pour revenir à mon petit nombril narcissique, mais juste celui qui doit ressembler à plein de gens qui nous écoutent et ceux auxquels, pour lesquels on doit porter attention et ceux pourquoi on est en train de faire cette émission, c'est que ces gens-là, il y a un moment, il faut aller leur tendre la main, il faut aller les chercher, il faut les sortir de cet engrenage dans lequel ils sont en train de s'enfoncer et qui est toujours de plus en plus sombre,
ouais,
pour le transformer en un engrenage qui a été le mien et qui a été d'être dans le sombre, mais de trouver une porte où on t'écoute.
Oui,
une
et ça,
porte où on accepte, c'est-à-dire un endroit neutre, où on accepte d'entendre que tu souffres,
ouais,
et qu'on te demande pourquoi tu souffres. Alors là, je vais dire n'importe quoi, mais s'il y a Michel, ça peut être une femme ou un homme, salut Michel, tu nous écoutes, tu souffres, viens nous dire pourquoi. Voilà. Et personne t'a entendu jusqu'à maintenant, quelqu'un qui va être attentif à ce que tu es en train de vivre va nous expliquer que c'est important de t'écouter. Et si on t'écoute, on va comprendre tes problèmes. Et au-delà d'arrêter de boire ou de consommer le toxique, on va essayer d'aller résoudre ça si c'est possible. Voilà. Et donc, on est toujours dans cet engrenage me concernant. Mais au lieu d'être tout le temps dans la souffrance et tout le temps dans le mal, paradoxalement, je suis tellement dans le mal que je finis aux urgences.
Ouais.
Je suis tellement dans le mal que mon médecin généraliste m'oriente vers l'addicto. Je suis tellement en train de sombrer que quand même, il y a des portes qui s'ouvrent. Et du coup, tiens, ça va me faire une bonne transition parce que là, j'ai un titre qui me vient. Mais du coup, pour ma petite histoire, en fait, ma temporalité, c'est que vraiment, une fois tous les 15 jours, j'ai ma fille qui vient à la maison. Et donc, une fois tous les 15 jours, j'arrête de boire, j'arrête de fumer et je fais ça tous les 15 jours. Donc, j'arrête de boire, j'arrête de fumer chaque semaine. C'est le titre que Kyo a écrit et chanté. Et du coup, je pense que comme ça, il est très réactif. Je suis sûr que si je lui laisse 30 secondes, il va nous balancer ça. Et vraiment, je pense que c'est une bonne transition pour ce que je suis en train de vous dire. En fait, je me suis raccroché à des étapes, à des obligations de parents. Je me suis battu contre mes démons là, dans mon enfer où je brûlais. Et l'essentiel, c'était de pouvoir au moins une fois tous les 15 jours être ce que je rêvais d'être, c'est-à-dire un bon papa. Et chaque dimanche et chaque semaine, j'arrêtais de boire.
Voilà. Dans cette temporalité.
Vas-y, s'il te plaît, ça balance.
Chaque semaine, j'ai reçu
C'était Kyo, le Graal, et vous écoutez Radio Escapade sur 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan et sur internet radioescapade.org. Cette chanson, elle dit beaucoup.
Ouais, j'espère qu'elle vous a donné la pêche parce qu'elle est entraînante. Et, ouais. Et voilà, vous avez cette métaphore là de ce mec qui marche sur les braises, qui, enfin voilà, c'est le mot force qui me vient. Quelle force j'ai eue en fait dans ces moments-là et dans cet engrenage. C'est pour ça que ce titre a marqué après mes esprits aujourd'hui, après 10 ans d'abstinence et plus. Je sais plus exactement quand est-ce que cette chanson a été écrite ou qu'elle est tombée dans mes oreilles. C'était pas pendant que je souffrais, mais par contre, elle illustre bien cette force que j'avais le week-end.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Et en fait, elle vient aussi marquer à l'auditeur, et là, vraiment, les gens qui sont autour, les proches, la famille, en fait, c'est un moment de gloire, c'est deux jours de force, c'est deux jours où t'es au-dessus de tout.
Ouais.
Vraiment, t'es au-dessus de tout et les motivations vont être propres, elles vont être singulières à chaque personne. Donc, j'ai tiré, moi, une force, j'ai réussi à être sous l'eau plus que les une minute que je suis capable d'être sous l'eau.
Ouais.
J'ai été sous l'eau, ces week-ends-là, j'étais sous l'eau pendant 5 minutes.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et là, j'étais puissant. Sauf que tu payes tes efforts.
Ouais.
Et du coup, en fait, l'engrenage ne s'arrête pas. Au contraire,
il vient,
dès que ma fille s'en va, tout se réfonde.
Ouais.
Et en fait, la souffrance devient de plus en plus forte. Et dans le soin, la réalité, c'est que le soin que je reçois, je veux pas cracher sur les gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main, mais il est inefficace.
Ouais, ils n'avaient pas les réponses adaptées.
C'est
ils
ça.
Pas,
c'est ça. La problématique des addictions, pour un peu d'histoire et pour les gens, il faut savoir que je crois, sauf erreur de ma part, que c'est dans les années 40-50, c'est-à-dire 49, que l'alcoolisme était considéré comme un vice encore.
C'est ça. C'est
après,
ça.
On...
C'est en 1978 que l'OMS considère l'alcoolodépendance comme une maladie.
Ouais, bah, tu vois, si on arrondit à 50 et ouais. 80, ça veut dire qu'entre le moment où on parle de vice et le moment où l'OMS, effectivement, 78, parle de maladie.
C'est ça.
OH
c'est ça.
Et enregistre la maladie, du coup transforme le vice, c'est quand
en
même pas
maladie.
La même chose.
Ouais. C'est ça.
Et finalement, sur une histoire, sur l'humanité.
Sur l'échelle humaine, c'est peu.
Ouais, on voit bien. On voit bien qu'on est aux prémices.
C'est il y a 47 ans. Hein.
On est aux prémices de cette prise en charge. Et aujourd'hui. Mon rouage, mon engrenage, comme on l'a dit au départ, il est. Il est pas stoppé, on n'a pas ouais. coupé les dents. Ma roue, elle continue de se prendre dans cette addiction. Et comme on est en train de transverser vers la prise en charge, j'ai toutes mes anecdotes d'alcoolique et d'anecdotes pourries qu'on vit au quotidien, qui ne s'arrêtent pas. Et on est en 2010, 11 là, 10 à peu près. Donc je vais souffrir et je vais sombrer pendant 5 ans. Mais il y a des choses qui changent. J'ai un médecin généraliste qui ouvre sa porte.
Qui a une oreille, qui t'écoute.
Exactement. Qui est là.
Qui a son importance.
qui a une énorme importance. J'ai beaucoup de respect pour cette dame que je suis en train d'essayer de recontacter.
Oui, que j'ai eu au téléphone.
Et après, j'ai ce centre d'addicto qui n'avait probablement pas les clés et qui m'accompagne, qui me fait mon ordo pour mes benzos. Donc en fait, au lieu d'arrêter les benzos, c'est comme des Smarties.
Mais il fait la même chose que le généraliste alors en fait. L'addictologue, la spécialiste, fait la même chose que la généraliste. Elle te prescrit les benzos.
Ouais, alors là, on parle de quelqu'un qui, à mon sens, n'a pas tout compris dans sa spécialité.
Ouais.
Mais je vais pas. Voilà, les portes étaient ouvertes. Et du coup, pour répondre à ta question, cette femme spécialiste, oui, en addicto, et oui, avec sans doute des choses à revoir, m'accueillait et m'orientait en psychiatrie.
D'accord. Voilà.
Donc,
d'accord.
M'orienter en psychiatrie, c'est un peu vrai partout d'ailleurs, parce que, puisqu'il y a des problèmes de comportement et des problèmes de tête. Mmh. Enfin, de tête, des problèmes liés à l'état psychologique général.
De la maladie.
Mais est-ce qu'on parle de psychiatrie là, c'est autre chose. Mais bref, on est orienté là-dedans. Et moi, j'ai fait des allers-retours très régulièrement dans la tour ronde, pour ceux qui connaissent, là-haut, dans la grande chambre en verre, là, avec tous les mecs qui sont dans un sale état, quoi.
Ouais.
Puis c'est violent comme endroit, c'est tellement violent pour que les auditeurs se rendent compte, si on peut. T'es au dernier étage de la tour la plus haute de l'hôpital de Sète, donc t'as vu à 360 degrés. Et au centre de cette pièce, qui est en verre, donc vu avec l'extérieur, au centre, t'as un petit anneau de verre dans lequel on a, vulgairement, on dit ça dans les hôpitaux et dans les cliniques, on parle de l'aquarium. Et l'aquarium, c'est le bocal en verre dans lequel il y a les soignants. Voilà. À 7, il faut imaginer que tu as un énorme bocal en verre et au milieu, tu as 2-3 soignants, là, 4 soignants, tu as surtout des vigiles. Et tout autour de cette pièce, tu as des chaises sur lesquelles tu peux t'asseoir. Voilà. Mais en fait, tout le monde se regarde là-haut. Enfin, c'est magnifique comme endroit. Et malheureusement, il y en a qui séjournent et qui y sont. Et c'est violent, hein, en réalité. Et c'est une prise en charge qui est très violente. Bref, du coup, moi, je fais ça. Voilà, j'ai ma fille pendant le week-end. Je suis dans cette institution régulièrement. Je n'y séjourne pas. C'est-à-dire que je suis en prise en charge jour. J'ai fait quelques nuits parce qu'il y a eu des moments compliqués. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Et ça dure. Cette prise en charge, là, entre médecins généralistes, les urgences et le suivi addicto, grosso modo, ça va nous amener à peu près aux alentours de 2013. Et dans la énième hospitalisation en urgence, un petit peu comme je vous ai raconté, donc il n'y a pas le détail, on s'en fout, je finis aux urgences, probablement à l'époque à 2,5 g ou 3 g, parce que c'est le taux qui est le mien en général. Et j'arrive, je ne sais pas quel jour, je ne me rappelle pas, je me mets sur le lit d'hôpital sur lequel on m'accueille, un drap propre, une chambre propre. Et très vite, j'ai envie de partir parce qu'en fait, j'ai envie de picoler. Enfin, j'ai
envie
besoin, pour le coup, j'ai besoin de picoler. Je commence à faire une crise de manque, je le sens. Et là, je sais pas qui est cet homme. C'est un homme, c'est sûr. Il vient me murmurer à l'oreille et il me dit quelque chose qui va être le déclic.
Qui
va changer ma
tout
vie.
Changer.
Oui, ça va changer ma vie. Clairement, c'est un des points clés dans ma vie. Ce mec-là va se pencher sur mon oreiller pour essayer de capter mon attention du mieux qu'il peut. Et il va s'excuser. Il va s'excuser de ne pas être disponible là pour moi. Sans doute parce qu'à côté de ça, il y a un mec qui a pris une balle, un coup de hache ou je ne sais pas quoi. Un truc bien plus urgent que Patrick, quoi. Et il va me dire, il va me supplier, il va me demander de bien vouloir faire le maximum de ce qui est dans mes capacités pour que j'attende qu'il vienne me voir à la fin de sa garde pour qu'il me dise quelque chose d'important. Et c'est incroyable parce que c'est ce que je vous raconte, ça a dû durer une douzaine de secondes, quoi, une paire de secondes. Et il s'est juste penché pour me demander ça. Et du coup, je l'entends. Je m'en rappelle pas parce que je suis bien allumé, quoi. Mais je sais que ça touche mon cerveau et ma mémoire ma mémoire visuelle et auditive me rappelle ce mec-là, ouais, et ce moment-là et cette phrase. Du coup, je reste dans mon lit d'hôpital.
D'accord.
Incroyable.
Tu tiens.
Ouais.
T'arrives à tenir.
Ouais. Et sur les dizaines de fois où j'ai été hospitalisé en urgence, les dizaines, ouais, ce jour-là, j'entends ça et j'attends ce médecin.
Oh,
et ce médecin, il va juste me dire un truc magique. Il va me dire, monsieur, c'est pas un problème que vous avez avec l'alcool. Vous êtes malade. Et si vous êtes malade, vous pouvez vous soigner. Et là, c'est ça que les auditeurs doivent entendre. Parce que quand t'es un alcoolique, t'es malade.
Ouais.
Et l'alcoolisme, c'est une pathologie. La pathologie, c'est addiction.
Donc ça se soigne.
Ouais. Et en fait, c'est ça que les gens qui nous écoutent doivent entendre. Qu'ils soient, eux, malades, ou qu'ils soient, eux, concernés par un proche qui est malade. Ça se soigne. Et en fait, pour que les gens se soignent, il faut leur tenir la main, il faut les accompagner, il faut les entendre, il faut les écouter, il faut être présent avec eux. Il faut leur donner l'envie d'aller se soigner. Il faut les motiver à se soigner. Il faut y trouver de l'intérêt pour eux et pour vous,
ouais,
si vous les accompagnez. Et pour ce faire, eh ben, il faut accepter que ça soit une maladie. Et en fait, je suis certain et je suis bien placé pour le savoir parce que mon père est décédé il y a quelques années d'un cancer, et un cancer des poumons. Et pendant 3-4 ans où il a été dans la souffrance à essayer de se soigner, pendant 3-4 ans, toute ma famille, même toute la famille que j'ai pas, même les voisins de la famille que j'ai pas, que je connais pas, tous ces gens ont soutenu mon père et lui ont tenu la main comme s'il en avait besoin. Ben, tant mieux, et ils l'ont aidé. Et il a réussi à battre et à combattre la maladie pendant des années. Mais moi, quand j'étais alcoolique, il n'y a personne qui est venu me tomber la main.
Ouais.
Ah bah non. Un alcoolique, non, on ne lui tend pas la main.
Non.
Et pourquoi ? Pourquoi la pathologie chronique, cancer, on vient de tenir la main, on vient pleurer à ton chevet, et le mec alcoolique, on ne vient pas pleurer à ton chevet, et qu'on te regarde comme si t'étais de la merde ?
Parce que ce n'est pas considéré comme une maladie.
Ben, il est temps de changer ça.
C'est ça. Je tilte vraiment sur un vocabulaire que tu as utilisé. Tu as utilisé prise en charge, et à partir du moment où tu as parlé de cet homme qui t'a parlé de maladie, tu as parlé d'accompagnement. Tu es passé de deux vocabulaires différents.
C'est vraiment ça. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de ministère de la Santé, de sécurité sociale et donc de prise en charge, avec un tas de gens là qui se demandent pourquoi aujourd'hui il fait bon vivre en France. Il fait bon vivre en France parce que quand t'es malade, on prend soin de toi, on te prend en charge, on te soigne et on t'accompagne. Voilà. Mais je vois très bien la nuance que tu veux souligner et ça introduira notre prochaine séance. Je terminerai là-dessus parce que ça m'a bien bousculé aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que cet homme-là, ok, on entend bien, il dit prendre en charge, donc ça veut dire prendre tout ce que ça implique et on s'en occupe, on t'aide à te soigner. Et après, il y a l'accompagnement. Et ce mec-là, que je vais retrouver parce qu'il m'a changé la vie, il va m'orienter en termes médicaux, mais surtout, il va me faire l'honneur de... grâce à ça, je vais avoir l'honneur de rencontrer le docteur Pascal Possos, qui exerce à Montpellier, qui est un génie. Il va me glisser aussi dans l'oreille. Vous êtes malade et je connais un génie. Il s'appelle Pascal Possos et il faut que vous alliez voir cet homme-là parce que lui va vous accompagner.
Oui.
Et à partir du moment où je vais rencontrer le docteur Possos, je vais tendre mes mains et je vais avoir des gens qui vont m'aider à me relever.
Ouais.
Voilà. Et je crois que c'est ça que tu voulais souligner.
Oui, c'est ça. C'est le comportement qui change tout en tant que professionnel et auprès d'un malade.
C'est-à-dire exactement.
Il y a ce comportement de... Il n'y a plus de prise en charge, mais il y a un réel accompagnement. Et c'est possible.
Ouais, voilà. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et aujourd'hui, il faut arrêter de dire que c'est impossible, justement. Et pour conclure avec les mots qui ont été ceux de l'introduction, le parcours de soins, après, c'est un autre engrenage.
C'est ça.
Je vous en parlerai plus tard.
Ça sera le sujet des prochaines émissions. Merci, Patrick. Merci encore une fois de témoigner de cette façon-là.
Ben ouais.
On est
là pour ça, non ?
Bah ouais, carrément, avec autant d'authenticité, c'est chouette. Merci Issa à la régie, toujours.
Ouais, Issa, merci pour le son, je savais que t'allais réagir parfait.
Oui, c'est parfait. Et on vous souhaite une très très bonne après-midi. Ciao.
Radio Escapade.
Oui.
Et merci à Radio Escapade.
Allez, ciao les auditeurs.
Ciao.